Salut à tous et bienvenue dans Radio Dixie. Aujourd'hui, je n'ai pas d'inspiration pour une petite blague d'intro à la con, donc je vais me contenter de te demander comment tu vas, Baptiste.
On s'est fait hype par le générique. Moi, j'arrive pas à lui faire le générique. Il me hype toujours. La musique, ouais, heureusement, les gens voient pas les petits trucs d'attente du lobby, mais ça faisait du air guitare, air batterie, puisqu'il s'est transformé en air trompette et air violon. Il n'y en a pas dans le générique.
Il est bien, ce générique.
Même l'image, je trouve qu'elle est bien. Je sais pas ce que les gens en pensent, mais l'image d'attente et tout, je trouve qu'elle est bien.
Il faudrait
qu'on en fasse une parce que celle-là, ça fait longtemps qu'on l'a, mais je l'aime bien.
On va en faire une autre avec Jean-Marie encore.
Ouais. Ouais, on peut garder les mêmes persos, mais il faudrait faire peut-être avec des AR-15 ou un truc, ou avec Matt Douro ligoté.
D'ailleurs, vous pouvez aller sur legeese.com, il y a un super t-shirt avec Matt Douro menotté. C'est pas mal pour faire pleurer les gauchistes. Mais aujourd'hui, on va commencer par une actu US, les gars. On a beaucoup parlé du US ces derniers temps, donc on va faire une seule actu US et ensuite on va se focaliser sur la France. On va vous parler des raids spectaculaires de la police de l'immigration américaine qui a notamment tué une femme blanche qui les empêchait d'effectuer leur travail. Ensuite, on va réagir à pas mal de choses. Un agent du fisc qui redresse un propriétaire car il proposait des loyers trop bas. Un journaliste français qui va fliquer les commerçants à Montréal. Vraiment une tête de petit con, vous allez voir. La sécurité sociale qui rembourse des galettes des rois sans gluten. Mais avant de se lancer, je voulais vous rappeler que je vous accompagne dans l'obtention de votre carte de résident du Paraguay, que ce soit pour y obtenir la résidence fiscale, pour avoir un plan B en poche ou pour vous expatrier au soleil dans ce paradis fiscal à faible coût de la vie, très catholique et sécuritaire. Et évidemment, en plus de mon équipe spécialiste en immigration, je vous accompagne personnellement pour vous conseiller tout au long de votre projet et je vous intègre à la communauté du Guise au Paraguay avec un groupe de discussion en ligne et des rencontres sur place. Vous êtes d'ailleurs déjà 25 au total. Et faites attention à certains prestataires qui offrent le même service mais qui font de la corruption d'agents d'immigration pour réduire les délais et les coûts. Car si se font choper, vous pouvez dire au revoir à votre projet au Paraguay. De mon côté, avec mon équipe, on a l'accréditation officielle auprès des services d'immigration paraguayens et on fait tout dans les règles de l'art pour que votre projet se déroule sans chichi. D'ailleurs, pour la petite anecdote rigolote, je ne sais pas si tu avais vu passer ça, Baptiste, mais Ronaldinho, le footballeur, il a fait un mois de prison au Paraguay en 2020 pour être rentré dans le pays avec un passeport authentique mais falsifié.
Il devait filer mais falsifié, comment ça?
Bah en gros, il avait chopé un vrai passeport, mais ils avaient fait de la corruption d'argent d'immigration pour falsifier les données, pour dire qu'il était citoyen paraguayen ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un gros bordel pour des raisons fiscales. Mais bon, bref, faites pas les cons parce que les coûts et les conditions pour un Européen pour obtenir la résidence sont tellement avantageux que ça vaut vraiment pas la peine d'essayer de tricher de ce côté-là. Pour les intéressés, vous pouvez m'écrire directement à contact@leguise.com et pour les curieux, vous pouvez aller voir la brochure de présentation sur leguise.com. Puis en ce qui concerne le Patreon et le merch, comme le t-shirt avec la photo de l'arrestation de Maduro, vous retrouverez aussi les liens en description. Et toi, Baptiste, quoi de nouveau de ton côté?
Écoute, j'ai vu vite fait dans le chat quelqu'un qui disait « j'ai cru que vous alliez parler du Groenland ». Donc on l'a dit, c'est parce qu'on a fait vraiment beaucoup d'actu US la dernière fois sur Radio Dixie. On essaye de varier un peu entre les actus internationales et les actus françaises. Donc là, on fait un épisode français. Le prochain, on reviendra bien sûr sur les actus internationales. Sinon, j'ai aussi vu un commentaire qui disait ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un No Country for Walkmen. Donc No Country for Walkmen, pour les gens qui ne savent pas, c'est mon autre podcast qui est sur Patreon, qui est disponible sur Patreon, qui est un podcast mensuel qui dure une heure et demie à peu près tous les mois, où je suis avec Pierre et mon pote Clément, que certains connaissent parce qu'il m'aidait, sur les repas de Seigneur à l'époque de YouTube, et où c'est un podcast complètement stupide, où en fait, là, pour le coup, il y a zéro... C'est pas Radio Dixie, quoi. C'est vraiment... on se lâche complètement. En plus, on a zéro censure sur Patreon, donc c'est vraiment... Il y a 90% de l'épisode qu'on peut pas mettre sur aucune autre plateforme, quoi. Et donc, au début, c'est divisé en trois parties. On arrive avec des sujets de discussion chacun, des questions, des sujets de discussion. Ensuite, la deuxième partie, on fait un jeu. Et généralement, la troisième partie, c'est des recommandations de séries, de films, de livres qu'on a lus, YouTube, etc. Tu vois. Et pour donner un exemple, là, on vient de tourner donc le premier épisode de l'année que je suis en train de monter. Donc, c'est pour ça que les gens disent ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais ça arrive là. Il devrait sortir dans les prochains jours, si j'espère demain. Donc les gens qui verront la rediff, il sera déjà sorti. Et pour donner un ordre d'idée, les sujets de cette semaine, c'était si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous retiriez les permis de conduire des femmes? Est-ce que tu préfères que ta meuf ait un nichon, trois nichons ou quatre nichons? Et si c'est quatre nichons, est-ce que tu préfères quatre nichons alignés ou deux et deux ou deux devant et deux derrière? Donc tu vois, c'est vraiment des débats. Voilà, c'est ce genre.
On est d'accord que c'est trois nichons la réponse la plus évidente.
Alors oui, ils ont choisi trois nichons, mais sur les quatre nichons, Clément, il voulait, donc Clément qui n'est pas là, voulait deux nichons et deux nichons pour essayer de faire comme un pis de vache. Voilà.
C'est intelligent.
Donc, c'est intéressant. Voilà, donc c'est ce genre de débat qu'on a sur No Country for Old Men. Donc voilà, c'est les gens qui veulent. Il y a déjà beaucoup d'épisodes en ligne qui sont disponibles sur mon Patreon pour 5 euros par mois. Ils peuvent s'abonner et aller regarder toutes les vidéos. Il y a aussi énormément d'autres vidéos beaucoup plus intelligentes. Là, je viens de faire un podcast d'une heure avec un mec qui fait un Français qui fait de la chasse à l'approche depuis plus de 35 ans. Et donc, c'était génial d'écouter ses histoires, son point de vue là-dessus, etc. Je fais aussi, bien sûr, des vidéos. Ouais, un Français en France, mais qui a été guide de chasse au Texas aussi. Un podcast, ouais. Ensuite, on a fait. Enfin, je fais aussi des vidéos de chasse, évidemment, des vlogs, etc. Donc, voilà. Et surtout, ce qui est important à dire sur Patreon, que ce soit le mien ou celui du Guise, c'est que c'est annulable à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'engagement. Ça veut dire que quand vous vous abonnez à nos Patreons, vous payez le premier mois, vous avez directement accès à tout notre contenu, les nouveaux comme tous les anciens. Et si ça ne vous plaît pas, bah vous vous désabonnez. Et en vrai, ça vous aura coûté, bah pour moi, ça vous aura coûté que 5 euros par exemple. Donc, ça vaut le coup pour 5 euros au moins de faire un essai. Vous faites un essai, si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Mais pour 5 euros, là, vous avez accès au moins sur un mois. Parce que même si vous annulez votre abonnement derrière, vous êtes bon pour un mois. Vous avez accès à des dizaines et des dizaines. Enfin, moi, j'ai, je sais pas combien, au moins 60 vidéos exclusive ouais. Maintenant sur Patreon, donc ça vous fait vraiment des dizaines d'heures de contenu. Donc voilà, et ensuite la dernière chose.
Moi c'est 5 dollars américains, donc le taux de change est favorable en ce moment, ça vous fait moins de 5 euros.
Bah voilà, donc c'est pour ça, ça vaut le coup de tester, et nous ça nous soutient énormément hein, pour le coup.
Ah oui.
Et ce que je voulais dire aussi, évidemment, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, Texas Jerky, et parce que maintenant ça m'énerve, maintenant que je commence à regarder. Je n'arrête pas de voir des mecs bouffer des bonbons ou des gâteaux, mais des mecs de chez nous, hein, de notre public, etc. Les mecs, c'est pas possible. Arrêtez de bouffer des bonbons, des gâteaux, mais on est des gosses ou quoi? C'est incroyable. J'ai l'impression de. Non, mais vraiment. Putain, mais prenez des snacks solides. Là, Texas Jerky, je le rappelle, vache française, 100% artisanale, zéro conservateur, zéro produit chimique, rien. De la pure protéine, plus de 50% de protéines, de la viande. C'est juste de la viande et des épices et c'est tout. Donc les gars, le goût est exceptionnel, l'apport en protéines est exceptionnel, la solidité est exceptionnelle, ça se conserve partout. Allez-y quoi, j'ai envie de dire allons-y, mais allons-y quoi, j'ai envie
allons-y,
de dire.
Ouais.
Allons-y. Donc c'est disponible sur jerkytexas.fr, vous avez les deux goûts différents sur le bœuf et vous avez le porc qui a plus de 60% de protéines. Voilà, les gars, allez-y, vraiment. Arrêtez de bouffer de la merde, arrêtez de bouffer des trucs qui vous rendent à moitié homosexuel et allez-y quoi, Texas Jerky, le snack le plus solide du marché.
Je recommande aussi, ma fille de 2 ans, elle bouffe pas de gâteaux sucrés par exemple.
Et quand elle bouffe des gâteaux, c'est le sucre, les gars, sucre, vraiment. Le sucre, c'est vraiment la merde. Vraiment, ouais. C'est un poison. Ça veut pas dire qu'il faut être en diète extra strict, vous avez le droit de manger un chocolat ou quoi. C'est pas ça. Mais vous vous rendez pas compte que la plupart des gens mangent beaucoup trop de sucre.
Ah, mais tous les jours. Hein.
Il suffit de boire un soda par-ci par-là dans la journée, un gâteau, une sauce, machin. À la fin de la journée, les gars, mais le taux de sucre que vous avez avalé, mais c'est scandaleux, vraiment.
C'est une addiction, mec. La plupart des gens, ils n'arrivent pas à se retenir.
Bien sûr, ouais, c'est une addiction. Et d'ailleurs, tu le vois quand t'arrêtes. Tu vois. Moi, par exemple, j'ai toujours beaucoup aimé le coca, le goût du coca. J'ai toujours aimé ça. Et avant, le coca zéro, etc., je n'y arrivais pas, mais vraiment pas, tu vois.
Ah ouais,
je trouvais ça, ouais, non. Et quand j'ai décidé d'arrêter complètement le sucre, à l'époque, c'est pour le sport, j'ai arrêté complètement le sucre pendant un an. Aujourd'hui, je n'arrive pas à boire un coca normal. Tu me sers un coca normal, je trouve ça horriblement sucré, ça me dégoûte.
Ah ouais.
Putain, mec, et ça le fait à presque toutes les personnes qui arrêtent le sucre complètement, c'est que ton corps est tellement habitué au goût sucré, au sucre, que tu sens plus quand c'est écœurant et tout, en fait, tu vois. Et quand t'arrêtes, tu ressens le sucre à 100%, quoi. Et
ça là, fait 10 ans que j'ai pas bu un coca sucré, un coca normal. À la prochaine émission, je vais en ramener un.
Essaye, tu vas voir, je suis sûr que tu vas pas aimer. Tu as trouvé ça vraiment, vraiment écœurant. Moi, les desserts et tout, tu sais, quand je vois des beaux gâteaux et tout, des fois, ça me donne vraiment envie. Et en fait, je mange 3 cuillères et ça m'écœure. C'est trop sucré, ça m'écœure.
Ouais. Après, si tu te permets ça une fois par semaine, c'est cool, c'est correct.
Non, mais bien sûr, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être ultra diète. Vous pouvez manger du sucre de temps en temps, il n'y a aucun souci, un gâteau, un bon truc. Mais juste, ne vous gavez pas de conneries, en plus des produits ultra transformés, tu vois. À la rigueur, vous vous achetez un éclair au chocolat à la boulangerie, un truc propre, bon, voilà, tu vois, vous vous faites plaisir, il n'y a pas de mal à ça. Mais des bonbons, des gâteaux, des Oreos, des merdes dans le genre, là, franchement, non, c'est pas possible, vraiment.
Ouais, non, c'est de la faiblesse que de manger ça, sincèrement.
Ah oui, c'est de la mythe.
Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter, mec?
Non, c'est bon, oui. on peut démarrer.
C'est de la bite, c'est parfait pour terminer l'intro. Alors, alors à moins de vivre dans une cave, vous avez tous entendu parler de ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec les raids spectaculaires de l'ICE, la police de l'immigration. L'ICE s'est chargé de l'application des lois migratoires et des enquêtes.
C'est L'ICE, parce que les gens ils vont dire c'est quoi l'ICE?
Ah oui.
Le ICE ou la ICE, L'ICE, donc c'est ICE.
Non, en fait, les Français, comment ils diraient? Ils diraient IS.
J'ai rien.
Donc l'ICE est chargé de l'application des lois migratoires et des enquêtes sur l'immigration illégale. L'agent joue un rôle déterminant dans l'expulsion des immigrants sans papier sur le territoire américain. Récemment, ICE s'est vu confier à la mise en œuvre du programme de déportation massive, une promesse qui était au cœur de la campagne électorale de Donald Trump l'année dernière. Depuis sa réinstallation à la Maison-Blanche, il a largement augmenté le budget alloué à l'organisme. Et l'agence a d'ailleurs procédé à des centaines de milliers d'arrestations. Plus de 605 000 personnes ont été expulsées des États-Unis en 2025 et environ 1,9 million ont volontairement quitté le territoire américain pour éviter une déportation forcée. Donc ça, c'est pas mal quand même. Mais avant de te laisser réagir à tout ça, mec, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'aimerais te montrer ce tweet de Thomas Porte, député de la République française. Ça va te permettre de réagir
Député de quel parti?
LFI, évidemment. LFI, évidemment.
Ah oui, le chef de la police raciste de Trump. Ah, mais déjà, ça démarre bien. Hey, c'est le chef de ICE, ça. Il est cool, lui, j'aime bien.
Ouais, il a une bonne dégaine, ouais.
Ouais, et en plus, il est marrant avec les journalistes.
Ouais, il argumente bien. C'est un bon débatteur.
Ouais.
Ça, c'est cool. Le chef de la police raciste de Trump. Donc là, je lis le tweet de Thomas Porte. Le chef de la police raciste de Trump, Grégory Bovino, vient entouré de ses hommes de main, provoquer et intimider les manifestants à Minneapolis, une milice fasciste qui tue des personnes simplement car elles n'ont pas la bonne couleur de peau ou la bonne origine. Voilà le modèle défendu par l'extrême droite française.
Sachant que la seule personne qui est morte, c'est une blanche. Hein. Faut quand même le préciser. La seule personne qui a été tuée par ICE est blanche. Depuis le début du mandat Trump, mais bon, c'est pas grave.
Et l'autre personne qui a été gravement blessée, c'est aussi une blanche ou un blanc, je sais pas trop, c'est un homme trans qui s'est pris un projectile de défense dans l'œil et qui a perdu la vue d'un œil.
Voilà. Donc, les fascistes. En même temps, il n'y a que des gauchistes blancs américains pour se mettre en face d'une voiture de police. Enfin, voilà, il faut être bien complètement décérébré, complètement lobotomisé par la gauche pour faire des dingueries comme ça, tu vois.
Même pas
sauver des migrants parce qu'on les sauve de rien, hein. Ils les emmènent pas dans des camps, ils les ramènent chez eux. Non, mais en fait, c'est intéressant quand même parce que je pense que ce que ça nous montre, c'est ce que disait Sarah Dnafo, et où je suis vraiment d'accord avec elle, c'est qu'en fait, c'est une belle démonstration de quand on veut, on peut. Parce qu'on nous a expliqué pendant des années que c'est pas si facile. Quand on parle de contrôler les frontières, de contrôler les entrées en France, on nous explique que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, qu'il suffit pas de mettre des policiers, que ça, c'est un problème qui se règle pas comme ça. La frontière américano-mexicaine, c'est 3000 km. Il faut le répéter, ça. 3000 km. C'est vous tirez un trait entre Paris et Moscou et vous devez contrôler tout ce qui passe. On est à zéro entrée illégale cette année. Je sais pas si vous voyez. On arrive à... Et les déportations... Plus de 600 000 en un an et 1,9 million qui partent par eux-mêmes. Première fois que les États-Unis, depuis dans l'histoire moderne des États-Unis, qu'ils ont un ratio négatif d'immigration. Donc, ça fait pas 10 ans qu'il est au pouvoir, Trump, hein, en un an. Donc, imaginez ce qu'on pourrait faire avec nous, la frontière française, qui, je rappelle, pour la plupart, de notre problème, est carrément une mer. C'est pas juste une frontière, c'est la mer Méditerranée. Donc, qui est, enfin, je veux dire, quand on veut, on peut, évidemment, on pourrait arrêter l'immigration d'un claquement de doigts en France, on pourrait déporter massivement les clandestins d'un claquement de doigts en France, seulement il n'y a pas la volonté, parce que ça, c'est un discours qu'on vous porte même à droite. Hein, vous avez des gens, des Retailleaux, etc., qui vous expliquent que ce n'est pas si facile que ça, nanana. C'est de la bite, c'est faux. Il suffit juste d'avoir quelqu'un qui tient ses promesses.
Au Chilcast, il n'est même pas encore au pouvoir. Il a juste dit aux immigrants qu'ils auront un mois pour partir une fois qu'ils seront au pouvoir. Il y en a déjà plein qui se barrent de même du Chili pour retourner au Venezuela ou au Pérou.
Non, et puis il faut voir comment ça se passe, Aris. Moi, je vous invite à suivre ICE et la Border Patrol sur les réseaux sociaux parce qu'ils communiquent énormément. Ils communiquent sur les arrestations et tout. Bon, ils se foutent un petit peu de la gueule des gauchistes aussi. Hein. Là, ils viennent juste de sortir un montage, je vous invite à aller le voir, sur les manifestants à Minneapolis avec la musique « Only You ». Où ils montent tous les mecs déchaînés, tout violents, et il y a la musique Only You. Et tu vois les mecs qui sont au ralenti et tout, tu vois. Donc, bref, ils se foutent vraiment de leur gueule. Mais je veux dire, ils communiquent. Il y a une vraie stratégie de communication avec les migrants. Leur expliquer, vous allez être déportés si vous ne partez pas vous-même. Et ceux qui arrivent surtout, n'essayez pas de venir, ne payez pas des passeurs, parce qu'ils montrent énormément de vidéos et de eux qui arrêtent des gens à la frontière. Parce que c'est ça aussi. Les passeurs leur vendent du rêve, comme en France. Les passeurs africains, enfin avec les Africains en France, les passeurs leur vendent du rêve. Oui, donne-moi, ça leur coûte très très cher. Tu me files l'argent et on va te faire traverser. Là-bas, tout va bien se passer, etc.
Donc ouais, les mecs croient. C'est l'équivalent d'un salaire annuel pour eux, hein, pour beaucoup d'entre eux.
Ah ouais. Donc c'est important, mais même des fois plus. Hein, des fois, ils s'endettent sur des générations, ils remboursent après une fois qu'ils sont en France. Et donc c'est important de communiquer avec ces gens en disant ne croyez pas les passeurs, n'essayez même pas parce que de toute façon vous allez être arrêté, vous allez finir dans un camp et ensuite vous allez être renvoyé chez vous. Donc vous allez dépenser votre argent pour rien et en plus vous allez passer du temps en prison. Et ça fonctionne puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de personnes qui se présentent même à la frontière. C'est pas que seulement les gens qui se font arrêter, c'est les tentatives qui ont extrêmement diminué parce que une fois que tu vois que c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il y a pas que la stratégie mise en place sur le terrain, c'est un tout. Et c'est très bien fait. Il y a une application qui a été faite pour les gens qui veulent rentrer chez eux, les immigrés qui veulent rentrer chez eux. Il y a les déploiements de force sur le terrain de ICE au point sensible parce qu'ils ne se baladent pas dans les rues et tout. Hein. Moi, je ne les ai jamais vus ici, par exemple. Ils vont à des endroits où ils savent qu'ils vont trouver des travailleurs illégaux. Ils vont à des endroits, par exemple, ils contrôlent les truck stops, tu vois, là où il y a les camionneurs. Donc, tous les camionneurs mexicains, etc., ils contrôlent les papiers d'identité pour être sûr que tout le monde est en règle, etc. Ils font ce genre de choses, ils font ça bien, ils font dans les centres sociaux, ils font plein de choses. Donc, il n'y a pas que le déploiement de force sur le terrain, il y a tout, il y a la communication, il y a tout ça, et ça fonctionne. Et en plus, je tiens à le préciser, on voit aujourd'hui, là, dans un rapport qui vient de sortir, que ça a un impact positif sur la moyenne des salaires américains. Parce que comme, et ça c'est un truc que la droite répète depuis des milliers d'années, une immigration massive, forcément c'est de la main d'œuvre pas chère en général, ça fait baisser les salaires du travail non qualifié.
C'est basique, hein, c'est l'offre et la demande. Hein.
Et il y a déjà aujourd'hui, vous voyez, avec ces 1,9 million qui sont partis, et avec aussi la peur évidemment de certains employeurs d'embaucher des travailleurs illégaux, et du coup, il y a déjà une remontée des salaires sur les emplois non qualifiés. Donc ça a un impact direct. Et ça a un impact évidemment sur la sécurité. Hein. Alors ça, c'est bien sûr cumulé avec d'autres actions sur la sécurité, mais ça a un impact. Hein. Toutes les plus grosses villes, enfin toutes les grandes villes quasiment, ont des diminutions, des taux de criminalité qui sont exceptionnels. Hein. On a vu une diminution sur le total américain qui est la plus grosse diminution de crimes violents en un an dans l'histoire moderne des États-Unis. Donc ouais, évidemment, c'est parce qu'il y a les déploiements de la garde nationale à Washington, à New Orleans, Chicago, etc. Mais c'est également parce que, évidemment, quand vous enlevez 600 000 clandestins du pays, comme ils ont un lien direct avec la criminalité, évidemment, le taux de criminalité descend. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui devrait nous inspirer vraiment pour la France et au moins. Bien sûr, nos politiques, ça ne va pas les inspirer, mais au moins pour nous, d'arrêter de tomber dans le piège de « Ah oui, mais c'est vrai que peut-être que le problème est plus compliqué que ça, peut-être que c'est des choses qui peuvent mettre des années à se résoudre. »
Les gauchistes, ils te disent que c'est pas possible. Les gauchistes te disent que c'est pas
possible. Même les droiteurs.
Même les droiteurs. Les gauchistes, ils te disent que c'est pas possible et quand ils voient que c'est possible, ils te disent que c'est nazi, que c'est fasciste.
Ouais. Ça, mais eux, de toute façon, rien à faire pour eux. Hein.
Non, mais la réalité, c'est qu'en plus, les agents de ICE, ils font que appliquer les lois votées démocratiquement aux États-Unis.
Non, mais attention, en plus, pas des lois votées. Ce qui est incroyable, c'est que les agents de ICE ne font même pas appliquer des lois récentes votées sous le mandat Trump, etc. Hein. C'est la loi fédérale qui n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé, à part sur l'obtention des visas. Sinon, sur tout ce qui concerne les dépassements de visa, les passages de frontières, etc., la loi fédérale n'a pas changé. C'était la même sous Biden, c'était la même sous Obama, c'est la même sous Bush. Hein. Ils ne font qu'appliquer la loi fédérale. Hein. Il n'y a rien, pour le coup, on n'a pas créé des lois particulières là-dessus. Hein.
Ouais, mais la démocratie, encore une fois, c'est quand ça les arrange, parce que ces lois, elles ont été votées par des députés qui ont été élus par des Américains, en majorité, évidemment.
Bien sûr.
Et au-delà de ça... Pour revenir sur la question de couleur de peau, c'est complètement mongol. Hein. D'ailleurs, tu vois des gauchistes qui poursuivent des agents de ICE latino ou
mais y en a plein.
Bronzés. Il y en a plein. Des Asiatiques, des latinos,
même des Noirs. Hein.
Même des Noirs, il y en a, c'est vrai. Bien ils sûr, leur disent, vous n'avez pas honte d'expulser des gens comme vous, etc. Mais c'est ultra raciste de dire
ultra
ça.
Ultra raciste.
Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de statut légal dans le pays.
Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'ici, il y a très peu de préjugés raciaux avec les hispaniques. Alors non, on parle de préjugés raciaux, attention, évidemment je parle pas de stéréotypes, il y a des stéréotypes comme partout, hein, sur les blancs, les hispaniques, les noirs, etc. Mais quand je parle de préjugés raciaux, je sais pas si c'est le bon terme que j'utilise, c'est plutôt pour dire que les gens n'ont pas directement une aversion. C'est pas ça qui compte. C'est-à-dire que je connais aucun blanc, même les plus à droite, etc., qui, parce que le mec est mexicain, ah ouais, donc c'est forcément un problème. Je veux dire, là-dessus, si vous regardez à l'heure actuelle, il y a quelqu'un qu'on pourrait montrer, je pense, dans Radio Dixie, qui s'appelle Valentina Gomez.
Tu regardes un peu.
Tu la connais ?
Ouais, c'est une Colombienne.
C'est une Texane qui se présente au Congrès.
Texane d'origine colombienne.
Voilà. Donc c'est une Latino 100%. Mais c'est surtout que c'est littéralement la politique la plus à droite que je connaisse, tu vois. Enfin, si on vous montre ce qu'elle dit, si tu peux montrer ses dernières vidéos sur Instagram, vous écoutez son discours. Après, vous avez du mal à croire que Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Hein. Parce que là, si Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, Valentina Gomez, c'est Adolf Hitler.
In Texas, we worship Jesus Christ, not a stupid rock or a dead pedophile like Mohammed. I get into Congress and I'm banning halal, hijabs, or as I like to call them, bomb concealers. And I'm turning the mosques that you paid for into public toilets. I look forward to making Texas the worst place for terrorist Muslims, illegals, pedophiles, and groomers to live in, so help me God. And don't forget, it's Mary Sunday, so go to church.
Go to church on Sunday.
Pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, je la cite encore une fois, ne prenez pas mes propos, ne faites pas des édits où vous prenez ce que je vais dire et dire que c'est moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Valentina Gomez qui dit au Texas, on ne prie Jésus-Christ, on ne prie pas une pierre ou un pédophile mort comme Mohamed. Je répète, c'est Valentina Gomez qui dit ça, ce n'est pas moi, ne m'envoyez pas en prison. Et qui dit, je veux transformer les mosquées au Texas en toilettes publiques et renvoyer tous les musulmans. Je veux faire du Texas le pays le plus compliqué pour les musulmans, que j'aime appeler les porteurs de bombes. Voilà. Ça, c'est l'extrême droite au Texas, entre guillemets, qu'on pourrait considérer comme l'extrême droite.
C'est un délire. Hein.
Et vous voyez, c'est une latino, donc y a pas de... C'est vraiment pas...
En fait, c'est un très bel exemple pour montrer qu'il y a énormément de latinos très conservateurs aux États-Unis. Et après, c'est sûr que, comment dirais-je, c'est quand même dommage pour les latinos, tu sais, qui bossent, qui ont une famille et qui font rien de mal. Mais la réalité, c'est que quand tu décides de t'installer illégalement dans un pays, tu acceptes le risque de potentiellement te faire déporter.
Et puis c'est bien sûr, évidemment. Non, et puis, je veux dire, personne ne dit que c'est... En fait, il n'y a pas de haine à un moment... personne ne déteste les immigrés clandestins qui respectent les États-Unis, parce que vous avez des immigrés clandestins, comme on dit, hein, qui bossent, qui font rien de mal, etc. Personne ne les déteste, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est nécessaire pour la survie d'un pays. Donc vous faites passer votre pays, l'intérêt des Américains, en premier, et c'est logique. Après, pour ceux qui ne respectent pas la loi, enfin déjà, ils ne respectent pas la loi en étant là illégalement, mais je veux dire, pour ceux qui auraient des comportements criminels, là, c'est différent.
Oui.
Évidemment, parce que déjà, tu viens illégalement, en plus tu te comportes mal, bon là qu'ils aillent se faire enculer, mais pour les autres, voilà, il faut comprendre que moi, qui suis vraiment intégré au sein du camp conservateur, je vois personne les détester, les haïr, ou enfin, personne dit ça, tu vois, personne n'est insensible, mais le problème, il est, voilà, mais vous, de toute façon, vous le connaissez, le problème, il est le même en France, donc on ne peut pas faire venir toute la misère du monde, surtout quand on voit tous les symptômes,
les États-Unis, c'est le pays, je vous l'avais déjà dit, qui accueille le plus d'immigrés légaux par an dans le monde. il y a déjà plein de Latinos qui obtiennent des visas d'immigration légalement pour aller vivre et travailler aux États-Unis. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils devraient passer par le processus légal pendant plusieurs années, payer des frais, etc., et faire les choses bien, pendant que d'autres viennent illégalement sans rien respecter?
D'ailleurs, ça vient de sortir, mais l'administration Trump a suspendu 75% des visas légaux provenant des pays musulmans. Il y a un changement de politique sur l'immigration légale en voulant favoriser l'immigration européenne et défavoriser l'immigration extra-européenne. C'est la première fois de l'histoire des États-Unis, donc c'est intéressant.
Ça a déjà été fait dans le passé, hein, mais c'est de l'histoire moderne, c'est la première fois. Ouais.
Peut-être, ouais. Non, mais de favoriser les Européens vis-à-vis des autres pays.
Mec, aux États-Unis, 99% de l'immigration légale était européenne et le reste, il n'y avait aucun visa qui était accepté quasiment.
C'est vrai, t'as raison. Oui.
Donc en fait, il revient à des vieilles lois américaines. Et puis non, il n'y a aucune agressivité parce qu'il n'y a aucune méchanceté non plus, il n'y a aucune haine, comme tu disais, parce que c'est simplement faire respecter les frontières du pays. Ce que n'importe quel Français de droite rêverait.
Bien sûr. Et puis quand vous voyez ICE, etc., qui. Enfin, là, il y a eu un truc malheureux, évidemment. Il y a une femme qui a essayé de se barrer d'un contrôle ICE, qui a foncé sur un policier de ICE et qui s'est fait tirer dessus. Mais ça peut arriver à n'importe quel citoyen américain. On ne peut pas faire comme en France. On ne peut pas rouler et percuter un policier. Il est devant elle, d'accord ? Faut bien comprendre que ce policier a déjà son arme sur elle, d'accord ? Donc, vous avez un policier qui vous braque parce que vous êtes dans un refus d'obtempérer. Vous accélérez alors qu'il est devant le capot. Ben, vous prenez une balle. C'est malheureux. Mais ce qui est malheureux, ce n'est pas le geste du policier, qui lui est un geste normal, qui est un geste de défense, qui est encadré légalement. Ce qui est malheureux, c'est qu'une femme soit tellement lobotomisée par la gauche qu'elle pense que c'est normal de faire ça. Une femme qui n'est pas une immigrée clandestin, qui n'a rien à perdre, aurait peut-être pris une amende, tu vois, parce que elle est stationnée devant ICE, elle les empêche d'avancer, donc elle aurait peut-être pris une mini peine, voilà, parce que pour un refus de, enfin je sais pas comment on dit, mais une obstruction, quelque chose comme ça. Elle est prête à percuter un policier avec sa voiture, et peu importe à quelle vitesse elle roule ou quoi. Je veux dire, c'est la gauche, à force de d'être matrixée, qui pense qui les endoctrine au point que une femme blanche qui une citoyenne américaine se dit, enfin elle est prête à faire ça, quoi. Et après tout le monde, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé quelque chose de normal, mais enfin
oui, regardez la vidéo là, très rapidement, de cet angle là pour ceux qui l'ont pas vu, parce que je sais que dans les médias français vous faites bien lobotomiser, mais regardez, regarde jusqu'au village, je vous en montre une autre aussi juste après.
Vous avez le policier, vous voyez, là il y a une vraie, il est clairement percuté par la voiture. Comment peut-on penser que c'est acceptable de faire ça? Il faut.
Ça, c'est un autre angle de vue. Regardez là avant que tu continues, mec. Là, c'est la caméra du policier. Boum. Genre, il s'est clairement percuté. Hein.
Sachant que là, la voiture est garée en perpendiculaire de la route. Hein. C'est-à-dire qu'elle bloque la route à des agents de ICE. C'est la première chose. Hein. C'est-à-dire que vous avez la police fédérale qui est en intervention et vous mettez votre voiture en travers de la route. Déjà, il y a un gros problème, un gros problème mental. Et ensuite, une fois qu'on vous demande de partir, une fois que vous êtes sur le point de vous faire arrêter et que vous êtes braqué par la police, vous percutez un policier. Mais comment ?
Il y a sa femme lesbienne qui lui dit sur le côté « Drive, baby, drive !»« Roule, baby, roule !» alors que le policier est devant.
Et donc, rappelons que ce n'est pas une criminelle à la base. Ce n'est pas une dealeuse de drogue. C'est juste une meuf, bon, c'est une lesbienne, mais je veux dire, c'est une citoyenne normale. Comment on a pu réussir à transformer des gens, alors à faire des trucs qui sont normalement des trucs de gangsters? C'est les membres de gangs qui font ça.
Il y a des hommes de sa famille qui ont témoigné, je crois que c'est son beau-père ou son père, qui a dit qu'elle n'aurait jamais dû être là, c'est de sa faute, qu'est-ce qu'elle foutait là?
Bien sûr, non mais évidemment. Moi, je pense qu'il faut vraiment regarder l'œil du problème. L'œil du problème, c'est la lobotomisation de la gauche qui pousse des jeunes à prendre un fusil, à tirer sur Charlie Kirk, qui pousse des femmes à obstruer et à foncer sur des policiers en service. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'endoctrinement idéologique qu'il faut pour réussir à faire ça, quoi. C'est catastrophique.
C'est un truc de fou. D'ailleurs, avant de passer à autre chose, mec, je voulais juste vous montrer un truc très très rapidement. C'est l'exemple d'une situation similaire qui s'est passée aux États-Unis aussi, et vous allez voir comment ça s'est terminé malheureusement. As the Jeep continued to advance, Officer Caprio got off one shot. WJZ won't show the rest, but a somber jury saw and heard Amy Caprio dying from massive crushing injuries. Donc voilà, exactement la même situation, une flic qui
ou la policière meurt.
Et elle meurt de ses blessures. Donc Luffy, qu'il a très bien fait, évidemment. D'ailleurs, mec, même s'il n'était pas forcément très bien positionné, parce qu'en général, on dit que c'est pas top de se mettre devant une bagnole, même tactiquement, le tir, il est exceptionnel.
Oui, bon, non, mais après, voilà, donc, encore une fois...
La vitesse d'exécution, elle est exceptionnelle, non?
Ouais. Mais bon, c'est quand même, moi, je trouve que c'est dramatique, tout ça, d'en arriver là, c'est dramatique. Non, mais je comprends que toi, tu vois le côté sélection naturelle, etc., mais c'est fou qu'on en arrive là. Je veux dire, c'est fou qu'on en arrive à ce qu'une gauchiste soit prête à faire ça. Je veux dire, qu'il manifeste, c'est une chose, qu'il soit pas contente, c'est une chose, mais qu'il soit prêt à faire des trucs de dingue comme ça sans se rendre compte. Comment on en arrive là, quoi? C'est vraiment, il y a une emprise de la gauche et de l'idéologie des gauchistes qui est sur des gens qui sont fragiles mentalement, très clairement, parce que là on est sur des gens qui sont de base fragiles mentalement, et vous avez des gauchistes qui en profitent, parce que c'est jamais les Mélenchon qui font ça, hein, vous avez remarqué, hein. C'est le maire l'autre enculé de gouverneur Tim Walz, il est pas là, hein. ils font pas ça, hein. C'est jamais eux, hein. C'est pas eux qui tirent sur Shaker, c'est pas eux qui font sur les flics, hein. Non, c'est toujours les gogoles du coin qu'ils ont réussi à complètement endoctriner, des gens qui sont à moitié dépressifs sous cacheton et qui finissent à faire ça, tu vois. Donc il y a quand même de l'ordre de la manipulation de personnes faibles qui est immonde, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, le Minnesota, c'est aussi là où est mort George Floyd.
Ah oui, bah c'est Minneapolis d'ailleurs. C'est la même ville, même.
La femme qui s'est fait tuer, c'était pas Minneapolis, mais George Floyd, c'était à Minneapolis. Ah bon, ouais, t'as raison.
La femme qui s'est fait tuer, c'était pas à Minneapolis.
C'est dans une autre ville, ouais.
Ah ok, pardon.
J'ai vérifié. Mais en tout cas, ça reste le Minnesota, quoi. Ça a l'air bien gauchiste.
Non, mais de toute façon, c'est un état immonde, hein, bien sûr. Non, mais c'est
l'état. On rappelle que c'est l'endroit où il y a tous les Somaliens dont vous parlez lors de la dernière émission. Et
c'est la catastrophe, cet état. C'est la catastrophe.
Et ce qui est drôle, c'est que George Floyd, George Floyd, il a perdu la vie parce qu'il voulait pas monter dans la voiture. Elle a perdu la vie parce qu'elle voulait pas sortir de la voiture. C'est cocasse.
Putain, mais <l'horrible. rire> Et sinon, on va changer de sujet, parce que plus on te laisse parler de ça, plus on se dirige vers un dérapage.
Et ça fait 6 ans, je voulais féliciter quand même George Floyd, parce que ça fait 6 ans qu'il n'a pas pris de drogue, presque 6 ans. Et puis on va terminer là-dessus, parce que maintenant je te propose de réagir à un extrait d'un agent du fisc.
On passe à la France.
Oui, à moi, oui. Vous avez autre chose à rajouter à part
ça. On passe sans, je vous préviens, sans sas de décompression, des agents de ICE aux agents du fisc français. Donc attention, les physiques sont différents, les missions sont différentes. Anthropologiquement, on est à deux extrêmes. C'est-à-dire que c'est toujours la race blanche, mais vraiment entre les mecs de ICE et le fisc français, voilà, il y a eu une séparation qui s'est faite il y a des générations, et donc on est sur une évolution. On faudrait pas demander à Rojdi là sur la psychologie évolutionniste, mais là on est vraiment dans une évolution extrêmement éloignée, même génétiquement parlant, quoi.
Ah ouais, mec, tu fais des analyses de testostérone entre le Texan blanc moyen et le Français blanc moyen. Je suis sûr qu'il y a une grosse différence, hein.
Non, mais puis là, on sélectionne. C'est pas le mec moyen, tu vois. L'agent du fisc français, tu vois. Et le policier doit. Ils ont vraiment, tu vois. Je vous préviens, voilà. Je préférais vous mettre parce que, comme on vous fait un truc sans transition, il n'y a pas de sas de décompression, quoi.
Tu fais bien. Pour pas qu'il y ait un trop gros choc.
Bah oui.
Vous avez un homme qui a baissé les loyers. Ouais. De ses appartements. Il la loue par gentillesse, il a de l'argent. Et il dit, écoute, moi je vais faire des loyers moins chers pour aider des étudiants, des gens dans le besoin. Il va se faire avoir.
Je vais me faire encore des amis. Tout à fait. Un jour, j'ai contrôlé un monsieur qui était propriétaire de plusieurs barres d'immeubles dans les plus beaux quartiers de Paris, dans une artère très très sympa. Et je regarde ses revenus tirés de...
C'était Avenue Montaigne. Hein. Donc,
c'était pas Avenue Montaigne, mais c'était vraiment une rue magnifique.
D'accord, dans le style,
Dans le style, extrêmement cher. Et je me dis, mais c'est pas possible, parce que bon, je suis pas trop mauvais en maths. Il faut avoir le goût des maths quand on fait l'activité fiscale. Et je me dis, c'est pas possible, mais c'est quoi les prix qu'ils pratiquent? Et donc, finalement, je fais appel à un organisme qui s'appelle l'OLAP, O-L-A-P, l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne. Et je leur demande, rue par rue de Paris, étage par étage, de me dire quel est le prix moyen pratiqué sur telle rue, tel étage, etc. Et donc, effectivement, on lui a fait une proposition de rectification, dans lequel on lui fait comprendre que, en fait, les prix qu'il pratique est qualifié de renonciation à recette. C'est-à-dire, toi, demain, tu es propriétaire d'un appartement de 100 mètres carrés à Paris. Tu dois retirer un loyer de 3 500 ou de 4 000 euros. Si tu décides, parce que tu as un côté très généreux, de faire un loyer de 800 euros, tu vas être contrôlé par le fisc et tu seras rehaussé sur le delta de ce à quoi tu as renoncé.
D'accord.
Voilà. Donc, comme ce monsieur avait des dizaines d'appartements...
Bah, il a loué moins cher, donc il faut... Normalement, le loyer aurait été de temps, donc absolument. Tu dois payer comme si c'était temps.
Exactement.
T'as pas le droit de faire moins
renoncé.
Cher.
quelle sous-merde de l'humanité.
mais tu sais, tu vois ce qui se passe, c'est que le gars, là, il a pas honte. Tout va bien.
Ah non.
On est sur le même cas exactement que les policiers qui gazent les paysans, etc. On est sur des gens qui... C'est légal, donc je me pose pas de questions de moralité. Voilà. Et le mec raconte ça. Et il rigole même. Ah, je vais me faire des amis. Bah oui, t'es en train de raconter un truc absolument immoral et immonde que t'as fait. Et tout va bien. Tout va bien. Et les mecs, et quand tu vas leur poser, ils vont dire, ah, mais c'est le métier, c'est comme ça, c'est la loi. Mais il y a un vrai souci, là. Il y a un vrai souci.
T'as l'impression qu'il prend carrément du plaisir à...
Mais bien sûr. Mais voilà. Mais je te dis, c'est... On a le même sur les mêmes cas, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça protège, tu vois. C'est la loi, c'est le gouvernement, donc c'est bon, tu vois. J'ai plus à me poser de questions, je tourne le cerveau off et je peux faire les pires atrocités, vraiment.
Comme quoi, ils n'ont rien à foutre hein, de l'égalité, du partage des richesses, des pauvres, etc. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller pomper votre fric. Parce que là, le mec, il offrait des loyers moins chers par bonté. Eh ben non, comme il a décidé de pas faire de recettes d'un certain niveau volontairement, on le taxe sur ses recettes qu'il a refusé d'accepter, de prendre. Ouais.
Donc, comme d'habitude, on piétine le droit à la propriété, hein, c'est-à-dire que le mec, c'est à lui, c'est chez lui, mais il peut pas mettre les loyers qu'il veut. C'est le gouvernement, c'est l'URSS qui lui dit à combien il doit louer ses loyers, tu vois, à combien il doit louer ses apparts, donc c'est incroyable. Et en plus, on arrive et on t'envoie des petits mecs comme ça, des fils de pute, tu vois, qui viennent et en plus, le mec, on le tartine, on lui prend son fric à lui et on va rehausser les loyers pour prendre le fric, bien sûr, au mec qui loue. Bref, c'est immonde. Et c'est les mêmes mecs, c'est-à-dire qu'il y a des lois comme ça et au gouvernement qui vont vous dire « Non, mais il y a une crise du logement qu'on essaye de régler. » Bah bien sûr, bah ça se voit, tu vois.
C'est juste une putain de mafia qui essaye de vous extorquer au maximum. Parce que plus il y a de fric qui rentre dans les caisses de la mafia, plus ils se mettent bien, plus ils vous dominent, plus ils ont de pouvoir, plus ils peuvent s'acheter des villas sur le bord de la mer et puis des voyages en première classe dans des hôtels de luxe. Donc c'est ça, pour résumer, hein, c'est une putain de mafia. Mais franchement, Baptiste, toi, ce mec, si tu le croisais dans la rue, est-ce que tu arriverais à te retenir?
Franchement, difficilement. Difficilement. Moi, j'ai une telle aversion pour les agents de l'État qui aujourd'hui font beaucoup beaucoup de mal à notre pays. C'est que pour moi, croiser ces mecs-là, c'est comme croiser, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est comme croiser les mecs qui arrachent les sacs des vieilles. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui agressent les meufs dans les trains et tout. Je les considère au même niveau parce qu'en fait, ils font autant de mal à notre pays. Les Français, ils sont pris en étau contre ces deux trucs-là, en fait. Les Français, ils sont en étau entre l'agresseur, l'immigrant agresseur. Et l'État raquette, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se fait taper au péage et il se prend une contravention parce qu'il n'a pas la bonne vignette d'assurance ou je sais pas quoi. Il se fait cambrioler chez lui par Mouloud et ses copains, tu vois. il se prend ensuite au boulot, il se prend un redressement fiscal par ce fils de pute-là, tu vois. Et pendant qu'il est au boulot, il se prend un redressement fiscal, sa meuf se fait, ou sa fille se fait agresser dans les transports en commun par Rachid. Donc c'est pour moi, non mais en fait, ces gens-là sont des oppresseurs. Et il ne faut pas minimiser les mots, ce sont des oppresseurs. Ils oppressent, ils oppriment les gens. Vous avez plein d'artisans, de gens comme ça qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau à cause de ces mecs-là qui viennent contrôler des normes à n'en plus finir. Moi, je l'ai vu sur les marchés, des pauvres mecs qui font les marchés, des bouchers, des fromagers, etc. Des mecs qui triment, hein, des gars qui à 4h du matin sont dans le labo en train de débiter de la viande et qu'on vient casser les couilles parce que ah, vous n'avez pas le bon modèle de caisse. Vous n'avez pas les enregistrements, parce que maintenant c'est ça, hein, les caisses sur les marchés, etc., pour les artisans, hein, c'est des enregistrements sur clé USB, etc., il faut avoir tout. Non, vous n'avez pas tel bon type de caisse, ou vous n'avez pas tel bon type de ticket de caisse, etc., de comptabilité, et on leur met des méga amendes, des redressements à des pauvres mecs comme ça. Mais non, ce n'est pas acceptable. Je suis désolé, mais pour un artisan, un mec qui vient lui cambrioler son camion la nuit, d'accord, et lui voler ses outils, ou un mec qui vient pendant la journée lui dire t'as pas le bon type de caisse enregistreuse et qui lui met une amende, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes et ces gens doivent être punis, punis gravement, punis sévèrement. Et il faut les porter dans notre cœur au même niveau. Et moi, je les déteste au même niveau. Donc oui, j'aurais beaucoup de mal à me retenir. Ouais.
Mais écoute, très bien, j'en attendais pas moins de ta part. Et la réalité, c'est que ce mec-là, il coche vraiment toutes les cases, mec. Parce que, en plus de faire partie de cette mafia, il fait le sale boulot et il en est fier, il en prend plaisir. Donc,
Bien
mec,
sûr, ah ouais, bah bien sûr.
même moralement, il est 100%
Non,
responsable
mais
à
de
tous les
toute
niveaux.
façon, psychologiquement et physiologiquement, il y a une
Donc, j'ai
sélection qui
trop
s'opère.
d'excuses.
Ce n'est pas des mecs comme toi et moi qui vont faire ce genre de boulot. C'est forcément des gens qui ont une recherche d'autorité, qui généralement sont des lavettes, hein, mais c'est le cas pour énormément de, mais c'est le cas pour énormément de postes dans le genre, hein. C'est-à-dire que quand dans ta vie tu es une victime, que tu n'as jamais réussi à avoir d'emprise, c'est-à-dire qu'il a ni emprise sur sa vie, ni sur sa femme, ni sur, tu vois, je veux dire, dans la rue, etc. Donc il y a ce côté revanche, tu vois. Voilà, là c'est mon moment de gloire. J'ai pas l'effort à fournir pour être un dominant, tu vois. C'est l'État qui me donne un petit badge et puis dans ce monde ça suffit. Donc forcément, bah, le mec il prend du plaisir, il est fier. C'est une revanche sur le mec, je sais pas quel âge il a, là,
Biologie,
40 ans et
la
quelques.
vie.
C'est une revanche sur 40 ans de lose, tu vois. C'est 40 ans de
Putain.
je me fais piquer mon goûter, je me prends des tartes, ma meuf me cocu, tu vois. Ma fille me déteste.
Jacques Brel disait, un homme passe sa vie à compenser sa jeunesse, à compenser
Ouais,
son
voilà.
enfance. Lui, il
Bah
s'est fait
voilà.
visiter comme un
Donc
fou. Mais
lui
en plus de
c'est ça.
ça, t'as deux options, mec, hein, pour compenser ta jeunesse si t'as été un bisu ou une merde. Soit tu fais les efforts nécessaires pour être en mesure de te défendre, pour être en mesure d'offrir quelque chose à la société, de t'enrichir, etc. Soit tu deviens une énorme merde qui vit des aides de l'État ou qui travaille pour l'État, parce que l'État utilise la force de
C'est le
l'État
petit
justement
capot, voilà.
pour te
Donc,
mater.
c'est le stéréotype du petit capot, voilà.
Ouais, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, en parlant de règles là, à la con, depuis la semaine dernière, tous les pêcheurs amateurs en France doivent mettre dans une application toutes leurs prises. Tous les poissons qu'ils ont pêchés gentiment au lac ou en
Oui,
mer.
promis, promis, on va le
Tic,
faire.
tic, tic, ils doivent rentrer ça dans une
Moi,
application.
je pense à mes potes là. Je pense à mes potes qui sont passionnés de pêche, à Guillaume, etc. Là, à mes potes pêcheurs. Oui, c'est sûr. Ah bah là, promis, 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 on va le faire. Tu vois.
Juste avant tes
Déjà,
noms,
la
j'ai
moitié
pêché une
d'entre eux,
Mathilde de panneau.
n'ont même pas de permis de pêche. Ils n'ont rien à
C'est
foutre. Ouais. Ils pêchent en
bon ça.
bateau. Et puis quand les gardes pêchent, ils viennent. J'ai déjà vu ça, moi, avec des potes, avec un pote à moi. Ils pêchent sur un petit bateau. Et les gardes de pêche, ils arrivent sur le bord, tu sais, et ils lui font signe, tu sais, de venir. Et il part dans l'autre sens. Il fait quoi? J'entends pas. Attendez, j'entends pas. Je vais me mettre. Et il se va dans l'autre sens, tu vois. Donc, tu vois.
Ah
Mais
ouais,
bref.
alors moi je
Donc
me souviens
oui, promis, on va le faire.
quand j'étais gamin et que j'allais pêcher dans des lacs comme ça à la con, les amis de ma mère lui faisaient la morale parce que j'avais pas de permis de pêche. La France, quoi.
Bref, ouais,
Putain de merde.
pour trois gobies que t'as sorti de l'eau, quoi, et que
Donc,
t'as certainement remis en plus. Bref, c'est.
on s'en bat les couilles. Et qu'est-ce que je voulais te dire, gros? En plus, on voulait en parler dans une autre émission, hein, mais c'est quand même bien représentatif. Tu le sais, hein, on en a parlé en off, de ces deux entrepreneurs français là, dans le domaine des spiritueux qui faisaient de l'eau de vie, qui se sont fait cambrioler leur eau de vie et qui ont dû payer 80 000 euros
Oui, je vois.
de taxes de mise en circulation sur des produits qui se sont fait voler.
Ouais. Ça, on en avait parlé au dernier épisode, je crois.
Non,
Non?
on voulait en parler, mais finalement, on n'a pas eu le temps.
Ah oui, mince, ok.
Mais c'est bien dans le même délire. 80 000 euros pour une marchandise estimée à 100 000 euros. Ça vous donne aussi une idée de toutes les taxes qu'ont les Français. Hein. Et en plus, ça, c'est une norme européenne hein, qui impose aux
Quelle
producteurs,
honte.
aux vendeurs d'alcool de payer des taxes de mise en circulation. Les mecs, ils disaient qu'ils étaient au bord du suicide, hein, qui
Bien
pensaient qu'il y en
sûr,
a qui
bah c'est
allaient les
logique.
buter un jour hein, parce que c'est
C'est
inacceptable.
logique, bien sûr.
Et c'est pas pour rien que la France, c'est un des plus gros consommateurs dépresseurs ou dépressifs, je sais pas comment on dit, du monde. D'ailleurs, pour terminer là-dessus, mec, tu nous disais qu'il y avait d'un côté le racket de l'État et de l'autre côté Rachid et Mouloud qui te volaient dans la rue. Mais tu sais que Rachid et Mouloud,
Après,
ils ont
j'ai
aussi
dit des
des amis.
prénoms au hasard, hein.
Oui, oh, tout à fait au hasard. Ouais.
J'aurais
C'est
pu
des kilomètres.
dire Karim ou Abdel. Comment ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas que les gens pensent que j'ai sélectionné ces prénoms
Non.
spécifiquement, quoi. Voilà, j'aurais pu dire Amine, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Yanis.
J'aurais pu dire ouais, ou Aboubacar. Enfin,
Oui,
ouais.
il
Non,
n'y a
non.
pas de racisme, il n'y a rien de.
Non, il
C'est
n'y a pas
du hasard total.
de. Je cible pas, tu vois, exactement. J'aurais pu dire Mokhtar ou voilà, tu vois.
Puis c'est des
Bah.
prénoms très communs en France, hein, je veux dire.
Ah, bah, c'est même dans les prénoms les plus
Normal.
donnés en France, hein. Donc,
Ouais, je
il n'y
pense
a pas de
que c'est une
souci.
dernière génération.
Ouais.
D'ailleurs, c'est drôle, hein, en France, il y a de plus en plus de musulmans, évidemment. Tu sais qu'aux États-Unis, pour la première fois de l'histoire, la génération Z comporte plus de catholiques que de
Oui,
protestants.
j'ai vu. J'ai vu. Mais attention, ces chiffres, ils sont quand même à prendre
de deux façons, parce qu'il y a une augmentation des catholiques qui est assez faible en vérité en nombre absolu. Par contre, il y a une diminution des protestants. C'est aussi pour ça.
Ouais. Mais dans un monde aussi progressiste qu'aujourd'hui, aussi moderniste, l'augmentation des catholiques...
C'est surtout que là, on va voir s'il y a une diminution aujourd'hui avec les prises de conscience actuelles. C'est très récent, la prise de conscience sur l'islam aux États-Unis, notamment dans les milieux très conservateurs, parce qu'en fait, les gens... dans les milieux comme... Non, les gens détestent l'islam, ou en tout cas sont très anti-islam, mais ne le vivent pas au quotidien. L'islam, par exemple, au Texas, l'islam est extrêmement... local, c'est-à-dire que si tu ne vis pas près d'une communauté musulmane, moi par exemple je ne croise jamais de musulmans. Il y a moins de 1% de musulmans. Non, jamais. Il y a moins de 1% de musulmans au Texas et ils vivent en communauté. Ils vivent, il y a Houston, il y a différents endroits, Dallas, etc. Ils vivent, c'est-à-dire que leurs enfants ne vont pas à l'école publique, ils vont dans des écoles coraniques. Dans les supermarchés, il n'y a pas de halal, donc du coup ils ont leur propre supermarché, etc. Donc du coup vraiment, si tu ne vis pas dans ces endroits-là, ben moi, une mosquée, par exemple, j'en ai jamais vu au Texas. Pourtant, je roule énormément, je voyage énormément. Mais il faut aller vraiment dans les endroits musulmans et trucs. Donc, du coup, comme les gens ne les vivent pas au quotidien, ils ne se rendent pas forcément compte si ça grossit, si ça prend de l'ampleur, etc. Et là, il y a une prise de conscience, on l'a vu avec Valentina Gomez, etc., qui est très récente là-dessus. Et du fait de ce qui se passe avec la Somalie, maintenant, c'est dans tous les, tu vois, dans tous les médias conservateurs, etc., je pense que... on va voir comment ça évolue avec l'arrêt des visas pour les pays musulmans et tout. On va voir comment ça évolue dans les années qui suivent.
Qu'ils apprennent de ce qui se passe en Europe.
Bien sûr, oui, bien sûr. Mais, mais tu vois, c'est pas parce que ça se passe en Europe qu'ils se disent bon, ça se passe chez nous aussi, parce qu'encore une fois, au quotidien, ils le voient pas. Quoi. Donc, c'est possible, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais qu'on observe une diminution de l'islam pour la première fois, parce que pour le moment, l'islam ne fait que grossir, comme partout où elle est, une diminution de l'islam aux États-Unis. Mais attention à ne pas tomber des fois, parce que moi, j'ai des Français des fois qui m'envoient des vidéos sur des communautés musulmanes au Texas, etc., et qui m'expliquent « Ouais, mais vous voyez, vous avez le même problème et tout. » Bon, alors, il faut minimiser. Je dis que l'islam est en expansion, qu'ils ont des communautés, mais moi, j'essaie quand même de garder un œil qui ne soit pas complètement déformé par l'idéologie, entre guillemets. Il y a moins, en chiffres absolus, je parle, hein, il y a moins de musulmans sur l'entièreté de l'État du Texas que, si tu préfères, non, je vais le dire différemment. L'intégralité des musulmans de tout le territoire texan ne représente pas 50% des musulmans qu'il y a seulement en Seine-Saint-Denis. Voilà. En termes de chiffres absolus. Donc il faut quand même relativiser les choses. Comme j'ai dit, il y a moins de 1%.
Entre 1% au Texas et presque 40% voilà. En France.
Et encore une fois, au Texas, il n'y a aucune loi. Là, c'est très récent maintenant. Il y a une loi qui est le gouvernement Abbott qui régit les centres communautaires musulmans, etc., pour pas qu'ils puissent faire... c'est un petit peu particulier. Ce n'est pas vraiment une loi... Mais s'il y a une suite de réformes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui commence à s'intéresser aux communautés musulmanes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Texas, il n'y a pas de loi sur le port du voile, de la burqa, etc. Si vous n'en voyez pas, et si ces gens sont en super communautarisme, on va dire, c'est parce qu'on ne leur laisse pas de place. La chrétienté est partout. Dans les écoles, il y a les crucifix, il y a les religieux, etc. Il n'y a pas de bouffe halal, tout ça. Donc, ils sont obligés de vivre entre eux. Et donc, de mon point de vue, tant qu'ils sont un chiffre raisonnable, ça ne me pose pas de problème que des musulmans envoient leurs enfants à l'école coranique. Je préfère ça plutôt que de me taper avec un rayon halal chez HEB ou ce genre de choses, ou d'avoir des élèves voilés à l'école. Donc voilà, il faut relativiser les choses. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir le tournant. Aujourd'hui, l'islam est au cœur des préoccupations je pense qu'on ne l'a pas vu depuis le 11 septembre, au cœur des préoccupations au sein du camp conservateur américain. Donc, voyons.
Au Paraguay, au Brésil, en Argentine, en Argentine et au Brésil, il y a des millions d'Arabes. Au Paraguay, en Argentine, au Brésil, il doit y avoir 5% peut-être d'Arabes dans la population, mais c'est tous des chrétiens. Donc, c'est différent. Et je pense que l'Argentine, le Paraguay et tous ces pays-là, il y a quand même une grande comparaison qui se fait avec l'Europe. Et puis, ils se rendent compte qu'il faut faire attention, quoi, parce que ça peut vite partir en couille si on fait n'importe quoi d'un point de vue immigration.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et en parlant des comment on appelle ça, justement de... Des... Comment on appelle ça?
C'est le mot que tu cherchais.
Non, non, des catholiques. En fait, il faut savoir qu'il y a, ouais, il y a pas mal de protestants américains qui se convertissent au catholicisme. D'ailleurs, il y en a qui soupçonnent Trump de devenir catholique. D'ailleurs, J.D. Vance, lui,
c'est converti. Parce que J.D. Vance est catholique, ouais, bien, ouais, sûr.
Et alors qu'il n'était pas, il s'est converti au catholicisme.
Tu te rends compte que J.D. Vance, c'est le premier, c'est un vice-président catholique, tu sais, mais que si c'est lui qui est élu, ça en aura un président catholique. Catholique. Ça, c'est pas vu depuis. C'est, je crois que Kennedy était catholique, il me semble. Mais ça serait, tu vois, ça serait pas vu depuis Kennedy. Ça serait vraiment.
Tu sais qu'à l'époque, les catholiques, là, les Irlandais, les Italiens qui immigraient aux États-Unis, ils étaient vus comme en dessous des blancs protestants. Il y en a même qui disaient qu'ils n'étaient pas blancs.
Bien sûr, mais il y a toujours, il y a eu beaucoup. Ça s'est beaucoup calmé. Aujourd'hui, c'est surtout les pasteurs, mais il y a toujours eu beaucoup de mensonges sur le catholicisme et de propagande anticatholique dans les églises protestantes. Je le vois encore avec des pasteurs certains. C'est plus véhément, parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de... Ils recherchent une unité dans la chrétienté, etc. Donc, il n'y a plus de véhémence. Mais quand, ouais, je parle de catholicisme avec des gens qui sont issus d'églises protestantes et qui me disent qu'ils ont entendu du catholicisme, généralement, ça vient de leur pasteur, c'est que des trucs faux. Généralement, c'est que des fausses informations, tu vois. Donc,
t'as eu des gens proches dans ton entourage qui étaient protestants et qui t'ont dit d'énormes conneries de ce qu'on leur apprenait, quoi.
Oui, c'est ça, c'est ça. Après, moi, ici, ce qui est au Texas, c'est un truc particulier, parce qu'il y a beaucoup de catholiques aussi. Donc, il y a 30% de catholiques pratiquants, et pas que des latinos. Donc, il y a des latinos, mais pas que, tu vois. Moi, mon collègue avec qui je chasse, qu'on voit sur beaucoup de vidéos de chasse, etc., FX, lui, il est descendant irlandais, il est catholique, tu vois.
Ouais, c'est donc, ça, ouais. Descendant français, irlandais, italien.
Il est catholique, voilà. Donc,
tous les descendants d'Allemands, d'Anglais, etc., qui étaient surtout protestants. Donc, il y avait ouais, aussi cette petite rivalité à l'époque. Mais bien ce sûr, que je te disais, c'est que donc, il y a des Blancs qui se convertissent au catholicisme, comme J.D. Vance, mais il y a aussi pas mal de Latinos, une immigration légale latino, qui fait qu'il y a aussi beaucoup de catholiques.
Bien sûr.
D'ailleurs, vous allez dans un endroit comme Miami, ou j'imagine même certaines villes texanes, il y a plein de Latinos qui sont extrêmement riches, qui vivent très, très bien, qui sont très intégrés, comme tu le disais.
Oui, de toute façon, au Texas, ils sont quand même là. Il faut comprendre qu'au Texas, il y a des Latinos qui sont là depuis la création de l'État du Texas. Il y avait des Latinos qui se sont battus du côté texan pour l'indépendance du Texas, etc. C'est pour ça qu'il y a un rapport très différent à la culture hispanique au Texas, notamment mexicaine, parce que de fait de l'histoire du Texas, qui a appartenu au Mexique pendant un moment, qui a eu un peuple historique mexicain, une partie du peuple historique qui est mexicain, etc. La culture Tex-Mex, le rapport à la culture mexicaine, elle est très différente, tu vois. C'est pour ça que le Texas, c'est une culture vraiment à part, parce que c'est vraiment à cheval entre la culture américaine et la culture du nord du Mexique, quoi. Donc, c'est même dans la façon de travailler dans les ranchs, etc. Il y a un côté très vaqueros, un côté très rancheros, etc., du nord du Mexique. Donc, c'est très particulier. Le Texas, ce n'est pas forcément représentatif des autres États.
D'ailleurs, si vous allez dans le nord du Mexique, vous avez l'impression parfois d'être aux États-Unis, hein. Il n'y a que des cow-boys partout.
Bien sûr.
Des
bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de fracture culturelle, parce que les migrations qui viennent du nord du Mexique au Texas, ils ont une culture très similaire à la culture texane. Donc, même s'ils ont leur code, etc., tu les reconnais, tout ça, dans la façon de vivre, c'est extrêmement similaire. Et donc, il n'y a pas de fracture.
Ça porte des chapeaux de cow-boys et ça met des bottes en cuir, quoi.
Ah, bien sûr. Non, non, mais puis ça fait des trucs comme nous, hein. C'est pour ça que les Blancs et... les Blancs et les Mexicains traînent beaucoup ensemble. Moi, j'ai plein de potes d'origine mexicaine. Enfin, voilà, dans le milieu country, etc., il y a beaucoup de Latinos et tout, ça traîne beaucoup ensemble. Contrairement aux Noirs qui, eux, se mettent vraiment à part et traînent ni avec les Mexicains ni avec les Blancs. Tu vois.
Ouais. Bah, ça fait penser un peu aux Syriens, aux Libanais, à toutes ces populations du Moyen-Orient chrétiennes qui sont venues il y a longtemps en Amérique du Sud et qui sont très intégrées aussi.
Oui.
Il n'y a pas de différence qui se fait.
Bah, genre, c'est pas le cas de Bukele, justement?
Bukele, Shakira, il y en a plein des connus, des Mexicains connus, ouais. Comment elle s'appelle, cette actrice, Salma Hayek. Ça, c'est des gens que tu considères comme latinos, mais en fait, ouais, c'est des gens qui sont ethniquement du Moyen-Orient, mais c'est des chrétiens qui fuyaient justement les persécutions musulmanes.
Intéressant. Ouais.
Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, mec, un truc que je voulais dire depuis tout à l'heure, tu sais, là, d'un côté, ils ont l'État qui les raquette, les Français, mais de l'autre côté, ils ont aussi les racailles qui les volent dans la rue, mais ils ont aussi des complices dans l'État. Parce qu'il y a une certaine Galia C, on n'a pas le nom complet, mais je ne sais pas si tu as entendu parler de ce scandale au fisc. L'administration fiscale est au cœur d'une affaire de compromission grave touchant la sécurité de plusieurs citoyens et investisseurs. Une ancienne employée du centre des impôts de Bobigny, Galia C, c'est un prénom arabe pour ceux qui ne savent pas, est accusée d'avoir mis ses accès professionnels au service du crime organisé. L'enquête révèle que ses recherches ne se limitaient pas à des règlements de comptes privés, mais visaient également des profils financiers spécifiques comme des détenteurs de crimes crypto-monnaie. En gros, elle donnait de l'information à des racailles pour qu'elles aient kidnappé des détenteurs de
crypto-monnaie
et les extorquer. C'est sérieux comme information, hein. ça sort pas de...
Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est... Tu te rends compte, enfin, franchement.
C'est exceptionnel.
C'est de pire en pire, mais oui, c'est ça. C'est exceptionnel.
Et tu nous parlais tout à l'heure, tu sais, de tous ces petits cons qui viennent faire... vivre des règles à la con, mais le savoir-faire français qui consiste à tout taxer et à tout réglementer s'exporte très bien. Regarde-moi ce journaliste français qui bossait pour Arte, France 2, M6 et Canal Plus en France et qui maintenant vit à Montréal où il casse les couilles aux commerçants montréalais littéralement. C'est ça le savoir-faire français qui s'exporte, vous allez voir.
Le savoir-faire français qui s'exporte.
Mais regarde ça, mais grâce à cette tête de con.
Je m'en vais en caméra cachée dans une boulangerie du plateau Mont-Royal qui fait quelque chose d'illégal, ne pas afficher les prix de ce qu'elle vend.
Bonjour, ça coûte combien les natas?
2,50 chaque, ou la douzaine c'est 25.
Et les éclairs? Mais normalement c'est obligatoire, non, de marquer les prix?
Non.
C'est pas obligatoire?
Non.
Ah bon.
Selon cet employé qui est là depuis une dizaine d'années, ça a toujours été comme ça dans ce commerce typique du quartier. Le patron m'assure qu'il respecte la loi et qu'il a le droit de ne pas afficher les prix sur les aliments sucrés.
Non, c'est pas obligatoire, mon ami.
J'ai vérifié auprès de l'Office de la protection du consommateur et c'est faux.
Non, il n'y a pas de distinction entre diverses catégories d'aliments. Tous les prix doivent être affichés.
Au téléphone, le propriétaire n'a pas voulu admettre son erreur ou rectifier le tir.
Est-ce que tu travailles pour le gouvernement? Non. Merci beaucoup et au revoir.
Un commerçant qui n'affiche pas ses prix, c'est loin d'être idéal pour la transparence et ça peut entraîner des arnaques selon ce professeur.
C'est la base même de la protection du consommateur. Lui donner l'information adéquate qui va lui permettre de prendre la meilleure.
Je suis désolé, ça me fait trop rire les noirs, mais c'est pas méchant. C'est non, mais, quand même.
Non, mais mec, on est exactement dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, physiquement. Vous avez vu le mec? Mais je veux dire, non, mais c'est l'exemple parfait. Je dis pas que c'est pas une meilleure chose qu'ils affichent leur prix ou je sais pas quoi, c'est pas ça le problème. Le principe, c'est
obligatoire. Le problème.
C'est... Non, mais déjà, et puis surtout, non, mais le principe, c'est même pas ça. C'est... Je parle du mec là. Le mec, c'est pas son boulot, lui, hein. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller venir? Mais vous avez vu le type? Le type respire la faiblesse. Il est là, son tour de cou, c'est mon poignet. Le mec, c'est une espèce de tête de choupa choup sur un corps de désarticulé de pantin. Il transpire la fille putrie. Et le gars, il a rien à faire de sa vie. Et il se dit, je vais aller voir des gens qui bossent, tu vois. Et je vais dire, ah, mais dis donc, ils sont vraiment le petit air de fouine, le nez pointu et tout. Eh, dis donc, vous n'avez pas les prix, hein. Putain, mais. Putain, mais qui. Mettez-lui un énorme.
Des putains de natas. Des putains de natas, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il en a à branler?
Mettez-lui un énorme coup de rouleau à pâtisserie dans sa grosse gueule, là. Putain, mais c'est pas possible. Non, mais vraiment, je te jure.
C'est vraiment les Français, mec.
Mais comme tu dis, voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Français comme ça. Heureusement, c'est pas tout le Français, mais je veux dire, on a ces parasites-là en France, on est une fabrique à ce genre de parasites. Comme on a dévirilisé la population pendant des années, évidemment, on a une méga part de notre population qui sont des fiottes. Et donc, au sein des fiottes, c'est le terreau fertile pour faire naître ces mecs-là. Des mecs. Non, mais c'est vrai, parce que comme je vous parlais. Quand je vous disais.
C'est
des mecs qui sont. Non, mais quand je vous disais que c'est des mecs qui sont des victimes, etc. La France, pourquoi c'est le terreau fertile au fils de pute? Parce que les mecs sont dévirilisés depuis l'enfance. Donc, ça crée des fiottes. Mais la France, c'est aussi un pays où on a beaucoup d'insécurité, d'immigration, etc. Donc, ces fiottes-là, dans la vie de tous les jours, eh ben, ils sont obligés d'aller, quand ils vont au bar, etc., tu vois, ils se retrouvent avec des Arabes, ils se retrouvent avec tout ça. Donc, ils ne sont pas en sécurité, donc ils se font bizuter. Et donc,
expérience, traumatisme.
Oui, non, mais de ces deux facteurs réunis, on en vient à ce genre de fils de pute. Et pourquoi en France on en a plus qu'ailleurs? C'est vraiment ce que je pense. Hein. Pourquoi en France on en a plus qu'ailleurs? Parce qu'on a ces deux facteurs en grosse quantité, dévirilisation et insécurité. Et donc tu as la recette parfaite pour créer le fils de pute revanchard. Et c'est
la
le problème.
Dévirilisation,
parce que du coup,
elle vient aussi de la déresponsabilisation de l'État.
Ah mais bien sûr. Non, mais tout est fait pour déviriliser, ça, on est d'accord, on en a parlé bien de fois. Hein. Mais voilà, c'est incroyable, c'est juste la tristesse, quoi. La tristesse, parce qu'on en a à revendre des mecs comme ça.
Du nombre de Français qui quittent la France parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a de l'insécurité, des fils de gauchistes qui sont au Canada, en Australie, en Suisse, dans des pays beaucoup plus libéraux, même aux États-Unis, et qui continuent à vouloir appliquer toutes ces régulations, toutes ces taxes qu'ils font, que justement la France est dans la merde. Donc en gros, ils s'en vont vivre dans des pays plus libéraux économiquement, mais ils continuent à te dire qu'il faut voter les filles pour plus de gauche et qu'il faut plus de régulation et plus de taxes. C'est des énormes merdes. C'est des énormes merdes. Aïe, aïe, aïe. Et je pense pas que ce soit encore le cas au Canada, par contre. Ils ont pas encore assez parasité le Canada, tous ces putains de gauchistes. Mais vous allez voir, écoutez-moi ça. La sécurité sociale française rembourse des galettes des rois sans gluten.
Placée bien en évidence à l'entrée de ce magasin bio, elle déclenche la polémique. Des galettes des rois sans gluten, remboursées en partie par l'assurance maladie pour certains malades. De quoi irriter les clients.
Ça m'énerve. Autant je trouve qu'il y a des médicaments qui devraient être remboursés, la galette des rois, il n'y a aucune raison. Je pense que ce n'est pas forcément à la sécurité sociale de prendre en charge ce type de, ce type de problème.
Pour cette galette qui coûte 16 euros, la sécurité sociale rembourse 2 euros. Sur l'emballage de tous les produits sans gluten, ce code barre détermine le taux de remboursement pour les personnes concernées.
Et du coup, elles le prennent, elles le conservent, elles peuvent l'envoyer à la sécurité pour se faire rembourser.
Les aliments sans gluten, identifiés par ce logo, sont remboursés par l'assurance maladie avec un plafond de 45 euros par mois et par adulte. Seuls les patients atteints de la maladie cœliaque qui ont droit.
Deux choses. Si on part du principe que, du principe normalement de la sécurité sociale, de comment ça nous est vendu, c'est, je trouve ça normal que ce soit remboursé, tu vois. Parce que, c'est compliqué parce que les bonbons sans sucre ne sont pas remboursés pour les diabétiques. Donc là, il faut quand même qu'on m'explique comment c'est justifié. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
C'est-à-dire que le mec qui est intolérant au gluten, mais vraiment, qui a la maladie cœliaque et tout, je ne parle pas des mecs, je parle pas de 99,9% des gens qui vous disent qu'ils sont intolérants au gluten, ils sont juste homosexuels. Mais pour ceux qui sont vraiment qui ont une maladie cœliaque, etc., si ça c'est remboursé, pourquoi pour les diabétiques, il n'y a pas les sucreries sans sucre,
oui,
tu vois,
en fait, je pense que ce que tu veux dire, mec, c'est que c'est peut-être pas cohérent d'un point de vue règle sécurité sociale, mais c'est cohérent d'un point de vue idéologie. Si tu
poses
la réflexion, l'idéologie à son paroxysme.
Bien sûr. Ben, ouais. C'est ça. C'est ça.
Et c'est tous ces bobos là, qui sont interviewés sur France TV, là, ils sont pour la sécurité sociale. Ils sont même très certainement socialistes. Mais par contre, ils ne sont pas cohérents. Parce que s'ils étaient cohérents, ils seraient pour tout collectiviser.
Non, et puis surtout, il y a des gens qui prennent ce genre de décision. Alors, donc, parce que là, ça tombe pas du cul d'un poney. Il y a bien quelqu'un qui a pris la décision à un moment qu'il fallait rembourser ce genre de choses, tu vois. Et ces mêmes mecs, après, on va t'expliquer qu'on va moins rembourser les soins dentaires parce qu'il y a un trou. On va moins faire nommer de médecins en France parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de médecins pour pas que ça cause la sécurité sociale. C'est là qu'on voit que c'est du foutage de gueule, en vérité. Ah oui, il creuse le trou tout seul.
Oh oui, non,
ouais, le système de santé que l'univers astral nous envie. Que la Fédération Intergalactique nous envie.
Mais mec, moi je suis juste convaincu qu'on a changé la façon de voir la sécurité sociale à des milliers de personnes avec Radio Dixie. Les gens qui étaient convaincus que c'était un système de santé que tout le monde nous enviait exceptionnel, ils se rendent compte grâce à notre émission que c'est de la merde.
En même temps, c'est, je sais pas pour toi, mais je pense que il m'a fallu un long moment pour réussir à vraiment comprendre comment fonctionnait le socialisme en France, la redistribution, etc., les alternatives viables. Tu vois ce que je veux dire ? C'est beaucoup de renseignements perso, c'est beaucoup d'études personnelles sur le sujet, etc. C'est aussi mon double le fait, ma double identité, entre guillemets, le fait d'avoir depuis des années avoir un pied aux États-Unis, c'est tout ça qui ont fait un long cheminement. Ça n'a pas été, tu vois, à 20 ans, je n'étais pas comme ça. Le fait qu'on expose les gens, ça donne un raccourci à beaucoup de personnes qui seraient peut-être arrivées à cette conclusion dans quelques années. À l'époque, on n'était pas. À l'époque,
Juste avant de clamser, mec. Juste avant de clamser, ils comprennent.
Non, mais à l'époque, on n'était pas exposé à ces.
Attends, mais le mec est en train de crever sur un lit d'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de personnel soignant. Tu penses qu'il réalise juste avant de mourir
que c'est qu'une merde ? Non, je pense pas. Non, je pense qu'on n'a pas été exposé assez à ces idées. Et aujourd'hui, nous, on a commencé avec Radio Dixie. J'ai l'impression qu'on est quand même dans les quelques précurseurs à droite dans notre génération, je dis bien, à exposer les gens à ces idées qui sont maintenant quand même, qui commencent à devenir de plus en plus courants. Je commence à les entendre quand même. Je vois que la droite se libéralise. Donc,
sur les réseaux, on le voit beaucoup.
Sur les réseaux, sur même dans la dans les politiques, tu vois, des personnages comme Sarah Gnafo, etc. Aujourd'hui, qui ont un discours qui est quand même libéralisant. Il y a une évolution qui va dans le bon sens de ce point de vue-là. Mais après, ça met du temps. Et surtout, il faut bien distinguer l'évolution idéologique au sein même du camp de droite et les résultats et l'impact que ça a sur le pays, qui sont des choses qui sont complètement décorrélées. Puisque, par exemple, si je prends l'exemple du grand remplacement, le grand remplacement en 2010, c'était, à part les méga ultra-droites skinhead, personne n'en parlait, en gros. Hein, je caricature, mais non, mais t'étais directement catégorisé là-dedans, quoi. C'était vraiment l'ultra-droite, machin. Pour le terme de grand remplacement, c'était impossible à dire nulle part, etc. Aujourd'hui, en 2025, c'est sur les plateaux télé, c'est dans les discours politiques, etc. Ça n'empêche que, en pratique, ça ne fait que l'empirer. Donc, il n'y a pas, tu vois, il y a une décorrélation entre le fait que des gens commencent à être exposés à des idées, etc., et le fait d'avoir un pouvoir palpable sur l'évolution du pays. Et ça, c'est nouveau aussi. Parce qu'avant, normalement, on a toujours dit ça. Il suffit d'éduquer les gens, il suffit d'éveiller les consciences. Hein. Tout le monde, c'était le rôle, le but de la droite, de l'extrême droite, etc., pendant très longtemps. Les gens se disaient comme, non, mais nous, on est des éveilleurs de conscience. On est là pour faire de la pub à des idées. Et ensuite, quand les gens auront ces idées, bah, les changements s'opéreront tout seuls. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on est dans un paradigme différent. On est dans une république qui est verrouillée de l'intérieur. Dans un système qui n'est pas justement démocratique, en tout cas qui ne laisse pas la place à l'action du peuple. Donc aujourd'hui, en fait, c'est, je pense, un nouveau. On est dans un nouveau type de système où, en fait, il y a une décorrélation totale là-dessus. Donc c'est bien parce qu'on éduque des gens, mais la dictature avance, quoi.
Il suffit d'une majorité de votants, c'est-à-dire quelques millions de personnes, pour que quelqu'un soit élu. Et en plus de
non,
ça,
et
mec.
Surtout,
on ne fait plus voter les gens.
On ne fait plus voter les gens sur aucun. Il y a en fait. Aujourd'hui, il y a plus. Voilà, des discours directs, mais même sur les gens se font élire avec des programmes différents de ce qu'ils appliquent, tu vois, par exemple.
Oui, mais même au-delà de ça, je pense qu'il y a un truc intéressant à analyser de ce côté-là, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est qu'aujourd'hui, 90% des Français, ils reçoivent de l'argent de l'État d'une manière ou d'une autre.
Voilà,
que ce soit des professionnels, que ce soit des assistés sociaux, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des entrepreneurs qui ont des contrats étatiques. Et donc, en fait, il suffit qu'on leur préserve leurs droits ou qu'on leur donne plus de droits pour qu'ils votent pour ce programme, même si ça continue à défoncer tout le reste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on parle de quoi? De la galette des rois, par exemple. On parle de la sécurité sociale. Genre, un fonctionnaire ou un entrepreneur qui dépend des contrats de l'État, il va s'en foutre du reste du programme. Il va juste voter pour le programme qui lui
apporte
le plus.
Pour prendre sa subvention, bien sûr.
À lui directement, pour prendre sa subvention.
Oui, on achète, ça, c'est évident.
Et juste, je te montre un dernier truc, là, pour terminer, c'est en relation avec ça, direct, par rapport à la sécu. Hop là. Et là, c'est juste pour vous dire que les bienfaits de la planification étatique... Ça fait aussi que, bah, qu'on vous extorque jusqu'à la moelle pour bien vous laisser mourir dans les couloirs des hôpitaux publics, comme le témoigne cet infirmier.
Une trentaine de patients sur des brancards le long des couloirs. Certains auraient attendu plus de 48 heures. C'est dans ces conditions, aux urgences du CHU de Rennes, que deux personnes sont décédées dimanche soir. Les soignants ont manifesté quelques minutes devant le service. Cet infirmier a reçu l'une des personnes décédées et juge les conditions de sa mort déplorables.
Il n'y avait pas de lit d'hospitalisation, il n'y avait pas de lit palliatif disponible sur le moment. Donc effectivement, il est décédé au sein des urgences, malheureusement. Pas dans des bonnes conditions, puisque il y avait 30 patients, c'est dans un box, c'est sur un brancard.
La direction de l'hôpital a enquêté sur ces décès. Selon elle, les premières investigations permettent d'indiquer qu'ils n'ont aucun lien avec la situation de tension. En effet, les soignants tiennent à écarter toute faute lors de la prise en charge.
Ah non, c'est pas la situation de tension, c'est juste qu'il n'y a pas de moyens, parce que c'est de la merde, la sécu.
Non mais, enfin voilà, encore une fois, le système de santé que la Fédération intergalactique nous envie, que l'univers astral nous envie, on va continuer à entendre des milliers de Français nous le vendre et nous dire « Non, mais heureusement, j'ai la carte vitale. » Bah ouais, heureusement. Heureusement, Dieu merci. Inch'Allah.
Ah. Inch'Allah, bon, on va terminer là-dessus. Mashallah, ça veut dire quoi?
Mashallah, la carte vitale.
Ça veut dire quoi?
Mashallah, je suis pas sûr, mais je crois que ça veut dire grâce à Dieu, non? Il me semble.
Ok, bah parfait. Mashallah, la carte vitale.
Je sais pas, c'est vraiment jouer en arabe, si quelqu'un connaît, qui me corrige.
Mais pour eux, c'est vraiment Mashallah pour le coup, parce qu'eux, ils participent en aucun cas, ils cotisent pas, et puis ils ont quand même des soins gratuits, et toujours mieux que dans les hôpitaux de merde en Algérie. Mais on va terminer sur ces belles paroles pour te remercier, Baptiste. Remercier
à très bientôt.
Le public.
Vous savez, c'est qui n'est pas remboursé par la Sécu, Texas Jerky, pour vous solidifier, évidemment, ça, c'est déremboursé par la Sécu, évidemment. C'est-à-dire qu'ils veulent même, ils voudraient même rajouter de l'argent pour la Sécu parce qu'ils savent que ça va vous rendre solide et ça va vous faire empêcher de voter pour eux. Donc, allez-y. Texas Jerky, le seul et l'unique, le snack le plus solide du marché sur jerkytexas.fr.
Vous serez plus dépendant de l'État, donc ça les arrange pas. Merci à tout le monde. Allez sur leguise.com, allez sur les Patreons de Baptiste, le mien, tous les liens en description, et allez acheter du putain de jerky si vous voulez arrêter. Si vous avez encore un petit doute sur le fait que vous êtes une fiotte, bouffez du Texas Jerky et puis ça devrait aller. Ciao les gars, à bientôt. Ciao. Bye bye.